RFI, il est 13h, à Paris, midi, en temps universel.
RFI midi.
Le grand journal international avec Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour à la une de ce journal. De nouvelles libérations d'otages ce matin, des Israéliens et des étrangers ont pu sortir de la bande de Gaza. On sera en direct dans un instant avec notre envoyé spécial à Tel Aviv. Nous serons aussi en direct à la frontière entre le Rwanda et le Congo Kinshasa. Nous ferons le point sur la situation. Le commerce frontalier a visiblement repris ce matin, alors que d'autre part, il y a une intense activité diplomatique pour tenter de mettre fin à ces combats autour et dans Goma. Le chef de la diplomatie française se trouve actuellement à Kinshasa. Également, dans ce journal, un accident d'avion entre un avion et un hélicoptère à Washington. Il y a sans doute des dizaines de morts. On évoquera aussi la politique française avec un rendez-vous crucial pour François Bayrou et pour le budget de la France. Les députés et les sénateurs sont réunis en ce moment à l'Assemblée nationale. Ils tentent de trouver un compromis sur le projet de budget alors que les socialistes n'ont pas écarté la possibilité de censurer le gouvernement.
RFI Midi.
De nouvelles libérations d'otages retenues depuis des mois dans la bande de Gaza.
Oui, des libérations prévues, vous le savez, par l'accord de cesser le feu entre Israël et le Hamas. Ce matin, une première libération a eu lieu, une militaire israélienne suivie un peu plus tard de la libération d'autres otages. Des libérations qui sont donc suivies minute par minute en Israël, où on retrouve notre envoyé spécial Muriel Paradon. Muriel, vous êtes à Tel Aviv, sur la place des otages, c'est là où les familles se rassemblent pour réclamer la libération de leurs proches depuis le 7 octobre 2023. Muriel, combien d'otages en tout ont été libérés depuis ce matin ?
Alors, c'est dans un chaos indescriptible que certains otages ont été libérés il y a une heure environ à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. On a pu voir sur un écran géant dressé ici, place des otages à Tel Aviv, Arbel Yaoud, 29 ans, une civile israélienne, l'air terrifiée, entourée par des hommes armés du djihad islamique et du Hamas, se frayait difficilement un chemin vers les voitures du CICR. Israël confirme que 2 Israéliens et 5 étrangers, sans doute des travailleurs thaïlandais, ont été remis à la Croix-Rouge. 3 heures plus tôt, c'est une autre otage, une soldate israélienne, Agam Berger, qui a été relâchée, seule cette fois et dans le calme, à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Yael a assisté très émue à sa libération devant l'écran géant à Tel Aviv.
C'est
juste incroyable, dit-elle. Elle est vivante, elle a l'air de bien aller, elle sera bientôt réunie avec sa famille qu'on connaît. Moi, j'étais observatrice de l'armée il y a 10 ans, ça aurait pu être moi ou une autre. C'est ce qu'on ressent, une joie immense. Arbel Yaoud est donc sortie des ruines du camp de Jabalia. Les autres otages de Khan Younes, près de la maison de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, tué par l'armée israélienne il y a 3 mois. Les groupes armés qui ont mis en scène ces libérations ont multiplié les messages. La bande de Gaza est détruite, mais nous sommes toujours là.
Muriel Paradon en direct de Tel Aviv avec Nicolas Benita. Par ailleurs, aujourd'hui, en Israël, c'est l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Interdiction d'ailleurs validée hier par la Cour suprême israélienne. Eh bien, la Norvège vient à l'instant de faire savoir qu'elle versait 24 millions de dollars à l'UNRWA.
Un chef d'État étranger en visite à Damas, c'est une première depuis la chute de Bachar el-Assad.
Il s'agit de l'émir du Qatar, reçu aujourd'hui par le tout nouveau président de la transition, nommé hier, sans surprise, Ahmed al-Sharaa, qui était encore il y a quelques mois le chef d'un groupe djihadiste. Alors, première décision prise pour cette période de transition, la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution aussi des groupes armés en Syrie. Et puis la dissolution du parti Baas, le parti du clan Assad. Oui, une page s'est bien tournée en Syrie, Abla Junaidi.
Parti nationaliste de gauche à l'origine, symbole d'unité de tous les Arabes, le Parti Baas est arrivé au pouvoir en Syrie par un coup d'État en 1963. Peu à peu, il est devenu l'outil d'ascension de Hafez al-Assad, le père de Bachar, qui a emprisonné, fait exécuter ou exilé tous les idéologues de la formation. À partir de son coup d'État personnel de 1970, le parti jouit d'une domination parfaite, ne tolérant qu'un multipartisme de façade. En parallèle, Hafez al-Assad le transforme en organe de contrôle au profit du clan au pouvoir. Un règne sans partage, toute voix dissonante est étouffée. Enlèvement, emprisonnement et torture deviennent la règle. Le soutien de l'URSS puis la Russie contribue à son maintien au pouvoir. En 2012, lorsqu'éclate l'insurrection armée syrienne, le Baas se dote de brigades, Kataïb el-Baas, une milice de volontaires essentiellement des sunnites. Mais le Baas est associé par la majorité des Syriens au clan des Assad. Lorsque l'insurrection armée dominée par HTS renverse Bachar le 8 décembre dernier, le parti s'empresse de suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre.
Abla Junaidi, la diplomatie à l'œuvre face à la guerre dans l'est du Congo, Kinshasa.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé tout à l'heure à Kinshasa, alors que de son côté, la SACED, la communauté des États d'Afrique australe, annonce un sommet extraordinaire demain à Harare, au Zimbabwe. À Goma, le M23 soutenu par l'armée rwandaise occupe une majorité de la ville et de sa périphérie. Alors, à la frontière entre le Rwanda et le Congo Kinshasa, eh bien visiblement le commerce reprend partiellement ce matin. On retrouve en direct Lucie Mouillot. Vous êtes à Gizeni, Lucie, du côté rwandais de cette frontière, et ce matin la petite barrière a rouvert partiellement.
En effet, des commerçants rwandais commencent à traverser la petite barrière, le point de passage principal des transporteurs transfrontaliers. Plusieurs chariots, même quelques petits camions remplis de légumes se dirigeaient ce matin vers Goma, et le marché installé juste devant le poste frontière a également rouvert aujourd'hui. Mais rien à voir avec l'affluence habituelle. Seulement quelques vendeurs rwandais sont revenus travailler. Ils disent ne pas encore avoir vu de clientèle congolaise traverser, et surtout de la route qui mène à la frontière, très vide encore ce matin. Beaucoup de commerces restent fermés. Il faut dire qu'à Gisenyi, le quartier de la petite barrière est l'un des points qui a été le plus impacté par les échange de tirs dans la journée de lundi. À quelques centaines de mètres, on peut encore voir les dégâts d'un incendie sur le bâtiment noirci d'une des boucheries les plus importantes de la ville, touchée par un mortier. Mais le retour même partiel du commerce transfrontalier est sans aucun doute un soulagement à Goma. Hier, de nombreux habitants traversaient déjà la grande barrière. Ils exprimaient leur inquiétude face au manque d'eau et de nourriture dans la ville, où les boutiques, pour beaucoup victimes de pillages, étaient toutes restées fermées.
Lucie Mouillot en direct de Gizeni.
RFI, 13h07 à Paris, en France, la visite du président du Conseil de transition haïtien.
Avec une déclaration de Leslie Voltaire, ce matin au micro RFI d'Arnaud Pontus, lors de son entretien avec Emmanuel Macron, la question de la restitution, de la réparation, de la dette d'indépendance payée à la France par Haïti au 19e siècle, eh bien, nous dit Leslie Voltaire, cette question a été abordée à l'initiative d'Emmanuel Macron.
Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution.
Et qui vous l'a proposé.
Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril, qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration.
Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution? On parle de 525 millions d'euros.
On n'a pas parlé d'argent, on a parlé
de principe.
D'une déclaration, et qu'on va voir ensemble.
Leslie Voltaire au micro d'Arnaud Pontus.
Interview à retrouver en intégralité dans une heure dans le journal d'Haïti et des Amériques. Et des dizaines de morts redoutées après un crash aérien à Washington.
Oui, une collision entre un hélicoptère de l'armée et un avion civil, un avion de ligne commercial qui transportait 64 passagers, membres d'équipage. Ils venaient de Wichita au Kansas pour atterrir à Washington. Anne Verdaguer, pour l'instant, on n'a pas de bilan exact de cette catastrophe, mais le sénateur du Kansas a dit craindre qu'il n'y ait aucun survivant.
Mais oui, et les opérations en plus sont rendues très difficiles par la nuit et les eaux glaciales du fleuve Potomac. John Donnelly est le chef des pompiers locaux.
Le défi, c'est d'abord l'accès. Les opérations se déroulent dans des eaux profondes de plus de 2 mètres. Il y a du vent, il y a des morceaux de glace, bref, c'est très dangereux. De plus, il n'y a pas beaucoup de lumière pour explorer chaque centimètre de la surface. place. Nos plongeurs évoluent dans une eau trouble. C'est vraiment très compliqué.
Et CBS News a donné le chiffre de 18 corps repêchés. Un bilan plus lourd est à craindre compte tenu de la violence du choc. Une vidéo montre une boule de feu se former après la rencontre entre les deux appareils. L'hélicoptère, un Black Hawk, effectue un vol d'entraînement. Cette collision à moyenne altitude a eu lieu non loin de l'aéroport Ronald Reagan où l'avion de ligne était en approche. Donald Trump a mis en cause l'équipage de l'hélicoptère et les contrôleurs aériens, estimant que l'accident aurait dû être évité. Parmi les passagers, plusieurs jeunes athlètes américains de la Fédération de patinage artistique, mais aussi un couple de patineurs russes champions du monde. Selon les médias russes, ils revenaient tous d'un entraînement.
Anne Verdinguet du service international de RFI.
Toujours aux États-Unis, l'obsession de Donald Trump pour les migrants.
Oui, avec une nouvelle annonce choc, le président américain veut envoyer des migrants à Guantanamo, la base militaire américaine sur l'île de Cuba, où les États-Unis avaient ouvert un camp de détention après les attentats du 11 septembre. Depuis son retour à la Maison-Blanche, vous le savez, la traque aux sans-papiers est lancée. Alors, des associations viennent en aide à ces immigrés clandestins, comme l'Alliance latino-géorgienne pour les droits humains. Elle se trouve en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Reportage d'Edouard Maille.
Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. Buenas tardes.
Deux employés répondent au coup de fil. Le nombre d'appels a considérablement augmenté depuis une semaine, comme le raconte Susana.
Ils sont inquiets et se demandent que faire si les autorités frappent à leur porte. Où seront mes enfants? Car les enfants sont à l'école et les parents à la maison ou au travail. On a vu que les enfants sont stressés et ont peur. Ils ne veulent plus aller à l'école. Ils sont en larmes. C'est traumatisant pour eux.
And it's a trauma for them.
D'autres veulent savoir comment retrouver leurs proches, arrêtés par les autorités, explique Veronica.
Beaucoup de familles ne savaient pas où avaient été emmenés leurs proches. Certains étaient encore au bureau de l'autorité de l'immigration à Atlanta, où ils sont emmenés, avant d'être répartis dans les centres de détention.
Les employés leur expliquent aussi comment envoyer de l'argent aux personnes incarcérées.
Ça sert à passer des appels, acheter de la nourriture ou d'autres choses, des chaussettes ou des sous-vêtements.
L'association rappelle aussi aux personnes leurs droits, comme celui de ne pas ouvrir aux autorités si elles viennent frapper à la porte. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
En France, la gendarmerie se justifie après l'interpellation d'une jeune fille originaire du Burkina Faso dans son collège.
Oui, c'est une interpellation qui a ému. La ministre de l'Éducation a même dû rappeler le contenu d'une circulaire écrite après l'affaire Leonarda pendant la présidence Hollande. Circulaire qui interdit toute opération policière dans le cadre scolaire. Alors aujourd'hui, le patron de la gendarmerie affirme que les gendarmes ne connaissaient pas ce texte. Il plaide l'erreur collective.
Je crois que les gendarmes d'abord avaient convoqué la famille à la brigade. Cette mère de famille est venue avec son petit garçon, mais sa fille n'était pas là. Elle était au collège. Et ensuite, il y a eu une espèce de conjonction avec les services de la préfecture, avec le proviseur du collège, qui a été appelé en disant « Est-ce qu'on peut récupérer la petite au collège ?» Il y a eu un accord général, mais il n'y a eu aucune violence. Ça s'est passé en souplesse. Voilà, on peut regretter, effectivement. Donc je dirais que l'erreur est collective et on en prend bon acte.
Le directeur général de la gendarmerie, Hubert Bonneau, sur BFM.
Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, on discute du budget, de l'avenir du budget.
Et indirectement de l'avenir de François Bayrou à la tête du gouvernement, puisque les socialistes menacent toujours de voter à la censure. Alors ce budget, ce projet de budget, on en parle en ce moment à huis clos. C'est dans une salle du Palais Bourbon, c'est ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui essaient de se mettre d'accord, qui essaient de trouver un compromis. On retrouve en direct de l'Assemblée nationale Charlotte Turien-Tomaca. Charlotte, quelles sont les dernières informations?
Eh bien, cette sorte de conclave parlementaire a commencé il y a plus de 4 heures ce matin. Écoutez ce qu'en disait le député macroniste Jean-René Cazeneuve. Il est suppléant dans cette commission mixte paritaire.
Ce ne sera pas un budget de gauche, ce ne sera pas un budget de droite, ce sera un budget de compromis. Je crois que ce sera la CMP la plus longue et la plus difficile de la Ve République. Parce qu'il y a 248 articles, 48 missions.
Objectif donc, parvenir à un compromis sur ce fameux texte budgétaire, vous l'avez dit. Alors il y a déjà eu des négociations, des discussions en amont du début de cette CMP. Et en fait, les parlementaires négocient à partir de la version du Sénat, version qui a été adoptée et qui consacre des coupes budgétaires qui ne conviennent pas du tout, évidemment, aux socialistes. Or, ce sont les socialistes que le gouvernement va devoir convaincre pour ne pas être censuré. Et le PS demande déjà de nouvelles concessions pour offrir sa bienveillance à François Bayrou et au gouvernement, et notamment de ne pas toucher à l'aide médicale d'État, d'augmenter soit le SMIC, soit la prime d'activité notamment, de réinjecter de l'argent notamment dans le budget du sport et du logement, de l'aide au développement qui ont été rabotées dans cette version votée au Sénat à majorité de droite. Et le PS a prévenu, juste avant le début de cette CMP, s'il n'y a pas d'ouverture à gauche, les socialistes censureront François Bayrou.
Charles Turien, Thomas K, devant l'Assemblée nationale, il est 13h15 à Paris. RFI Midi continue, c'est avec vous Marion Cazanov, bonjour. Bonjour et au revoir plutôt.
Et on vous retrouve tout à l'heure, merci. C'était le Grand Journal International de Florent Guignard, 13h15 à Paris. On passe au sport. Bonjour Olivier Pron.
Eh ben moi je vous dis un grand bonjour.
Un grand bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Rien que du foot aujourd'hui au programme. Il faut dire qu'il y a beaucoup à dire après le dénouement de la phase de poule hier de la Ligue des Champions. Une folle soirée dans toute l'Europe.
18 matchs Marion, on le savait. 63 buts inscrits. On vous l'avait promis, on le pressentait, c'est-à-dire 3,5 par rencontre. Plutôt pas mal. D'un bout à l'autre, cette première phase de poule unique aura emballé et régalé. Et au final, sans trop surprendre, si ce n'est, tiens, côté français hier, deux défaites façon carton, deux succès façon carton aussi, et au final un carton et une stat canon. 4 sur 4, tous les clubs de Ligue 1 engagés sont passés. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas été à pareille fête dans le football français. Seule la première ligue anglaise fait aussi bien et place, elle, carrément 3 clubs sur ces 4 dans le top 8.
Le top 8 où l'on ne retrouve qu'un seul club français qualifié directement pour les 8e.
Et à la surprise générale, c'est Lille, 7e donc, à 5 longueurs de Liverpool, le leader à 3 de Barcelone et d'Arsenal qui complète le podium. Le club nordiste, auteur d'une formidable campagne européenne du début à la fin, des succès sur le Real et l'Atlético Madrid, et un score façon tennis, ça vous plaît, hein. Hier soir, en guise de bouquet final, 6-1 face au Feyenoord Rotterdam, le match parfait, nous dit évidemment l'entraîneur Bruno Pep Genesio.
Si le match parfait existe, parce que je pense que c'est, ça n'existe pas, mais en tout cas la soirée est parfaite parce que d'abord on a gagné, ce qui était le premier objectif. C'était la seule chose qu'on maîtrisait ce soir. Deuxièmement, les résultats nous sont favorables et on est qualifié directement pour les huitièmes de finale, ce qui a quand même l'avantage de nous épargner deux matchs supplémentaires. Et troisièmement, c'est de voir la joie de tout le monde, la joie des joueurs, du staff, du public, cette communion-là avec le public à la fin. C'est pour ça qu'on aime notre métier, c'est pour ça qu'on aime ce sport.
C'est pour ça que nous, on a bien aimé suivre Lille tout au long de cette phase de poule unique. Lille 7e donc, juste devant Aston Villa, et qui attendra sereinement le tirage au sort demain à midi, sans passer par la case barrage.
Des barrages pour lesquels le PSG s'est finalement qualifié.
Un parcours semé d'embûches et de mauvais matchs et résultats pendant 6 journées au moins, et le réveil pour éviter de sombrer dans les deux dernières. Succès 4-2 à la maison face à Manchester City, et hier 4-1 à Dortmund. Triplé d'Ousmane Dembélé, qui l'eût cru, voilà l'attaquant international national a 13 buts cette saison, le meilleur total de sa carrière, et il reste encore quelques matchs à jouer. Barcola aussi a marqué, preuve que l'attaque parisienne est enfin au point. Parole du jeune Désiré Doué.
On a su être sérieux dès le début du match, on a mis beaucoup d'intensité aussi, et ça nous a permis de remporter le match. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, on essaie juste d'appliquer ce que le coach nous demande, voilà, on se connaît de mieux en mieux, on essaye de trouver les automatismes sur le terrain, je pense que ça se ressent et on continuera à travailler.
Mais bien sûr, Désiré Doué va travailler comme hier, Cédric Oliveira qui lui tendait le micro. Rapidement, les deux défaites qu'il faut mentionner, même si elles n'empêchent pas la qualification en barrage. 3-0 pour le Real Madrid à Brest et 0-3 pour Monaco à l'Inter Milan. Brest ou Monaco, adversaire de Paris en 16e de finale. On le saura demain.
Pas de cador au tapis finalement, Olivier. Manchester City a fini par passer.
Il fallait s'imposer à Bruges, chose faite, 3-1, sans convaincre pour autant, mais Pep Guardiola soulagé promet qu'il y aura du mieux dans 15 jours.
On était éliminés à la mi-temps, et quand on n'a plus rien à perdre, parfois, on se met à mieux jouer. Des joueurs peuvent se révéler comme Savinho, qui a totalement changé le match. Bruges s'est mis au marquage individuel, ce qui a permis à nos joueurs de faire des différences. Et maintenant, on est toujours dans la compétition. Dans deux semaines, on sera meilleur, nos recrues seront là. On va jouer contre un géant et on verra bien comment ça se passera.
Against these two giants, one of them are going to play and we see what happens, how we arrive.
Et qui sont ces deux géants promis en 16e de finale à Manchester City? Bah, le Real Madrid ou le Bayern Munich? Réponse demain midi à Nyon, bien sûr.
Et on suivra ça. Merci beaucoup Olivier Pron pour le Journal des Sports.
RFI Midi, Marion Cazeneuve.
Une nouvelle étape dans la transition syrienne. Plus d'un mois après la chute de Bachar al-Assad, le nouvel homme fort du pays devient président par intérim. Ahmed al-Shara devra former un conseil législatif intérimaire, mais aucune date n'a été donnée pour les futures élections. Autre annonce, la dissolution du Parlement, également celle du parti Baas au pouvoir pendant plus de 60 ans dans le pays. La Constitution aussi a été dissoute. On revient sur ces annonces avec notre invité Ala Kodmani. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération. Ala Kodmani, c'est logique selon vous, toutes ces annonces, ça va dans la continuité de ce que promet et de ce qu'incarne Ahmed al-Shara?
Pour le moment, c'est presque une officialisation tardive de ce qui s'est passé ces dernières semaines, je veux dire depuis le renversement du régime Assad. On acte officiellement la fin du régime, on dissout les différents groupes armés pour les intégrer dans une armée nationale. Le président de facto devient président intérimaire. Enfin, c'est une série d'annonces à la fois logiques et presque tardives parce que on est dans cette situation depuis plusieurs semaines.
Et est-ce que les Syriens peuvent accueillir ces annonces comme un gage de stabilité, par exemple le fait que Ahmed al-Shara reste, officialise son statut de dirigeant?
C'est-à-dire que les Syriens ont été un petit peu frustrés tout de même par les annonces hier. Parce que on attend un peu un calendrier de ce qui va se passer dans les prochaines étapes. Pour l'instant, c'est des mesures unilatérales, décidées par ce pouvoir intérimaire provisoire. Mais il est vrai que c'est une étape officialisant, mais ne n'ouvrant aucune perspective pour les semaines ou les mois qui viennent. Il n'y a pas de calendrier sur la réunion d'une conférence nationale qui était annoncée, sur une représentativité, sur... on est peut-être une période de tâtonnement. On se demande si l'officialisation de sa nomination de Ahmed al-Shara comme président n'est pas justement pour accueillir aujourd'hui un chef d'État, pour qu'il ait vraiment un titre de chef d'État pour accueillir l'émir du Qatar qui est aujourd'hui à Damas, premier chef d'État à venir en Syrie. Donc il y a à la fois, c'est une officialisation, c'est un petit peu, on a des interrogations, les Syriens ont des interrogations sur « et après ». Le jour d'après.
Il n'y a pas encore, vous l'avez précisé, il n'y a pas eu d'annonce claire sur un calendrier à venir pour des élections. Ahmed al-Shara a déjà évoqué, mais il y a plusieurs semaines déjà, un délai peut-être de 4 ans pour de nouvelles élections. Mais malgré donc toutes ces annonces, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un risque que l'on n'arrive jamais à des institutions démocratiques? Parce que certains pourraient y voir aussi un coup d'État militaire avec toutes ces annonces.
On peut considérer que c'est un coup d'État militaire. C'est une prise du pouvoir par des groupes armés. Donc on peut absolument considérer ça. Mais l'important, c'est pas tant de tout de suite des élections, parce qu'aujourd'hui les conditions de vie des Syriens et des déplacés et de décennies de dictature, etc., ne permettent pas l'organisation d'élections. Mais il y a des étapes qui étaient prévues ou envisagées ou dont on a entendu parler qui peuvent mener. Le processus de transition ne peut évidemment pas être soudain, rapide et du jour au lendemain, on est un pays démocratique qui font des élections générales.
Et alors de quel gage ont besoin les Syriens aujourd'hui? Vous parliez d'une conférence nationale.
Il y a une conférence nationale qui devrait être prévue ou qui associerait un millier de représentants. Normalement, il y a même un comité préparatoire pour cette conférence nationale. On n'en est pas là du tout. ces aspects des choses n'est pas du tout abordé pour l'instant. Il y a un côté tâtonnement, qui est compréhensible par des gens qui n'ont jamais géré un pays, qui arrivent dans des situations, dans un pays aussi qui a de très gros problèmes économiques et sécuritaires. Tout ça, ce sont des priorités absolues qu'il faut régler. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques inquiétudes si ça dure encore un certain temps de tâtonnement. Je dirais vraiment, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas encore de structuration, de calendrier, des étapes de la transition. On est dans une transition, c'est normal.
À la Kodmani, est-ce qu'il y a aussi un risque de talibanisation de la Syrie et que donc, même si le HTS, le groupe de Ahmed al-Shara, est officiellement dissous, qu'il puisse continuer quand même à imposer un agenda islamiste dans le futur ?
Alors, talibanisation, je ne pense pas du tout. Vraiment, c'est un terme qui ne peut pas s'appliquer à la Syrie. De ce côté-là, au contraire, je crois qu'il a montré quand même une ouverture. Et je crois surtout que la société syrienne, depuis que ce groupe gouverne et qu'il est à Damas, a montré quand même une capacité de résistance et de faire face à toute tentative d'aller dans le sens d'un extrémisme quelconque. Il y a des résistances et ça ne passera pas. Mais je crois que le terme talibanisation est complètement inapproprié dans le cas de la Syrie.
Il nous reste simplement quelques secondes à la Kodmani. Est-ce qu'on peut considérer aussi que toutes ces annonces sont aussi un appel du pied vers les Occidentaux pour en vue d'une levée des sanctions ? Rapidement, s'il vous plaît.
Non. De toute façon, le processus de levée des sanctions est en cours et il est nécessaire parce que c'est vrai que le pays est exsangue et que les caisses de l'État sont vides et qu'ils doivent faire face à une situation assez compliquée pour toute la population.
Merci à la Kodmani, journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI.
RFI Midi.
Demain, cela fera 5 ans tout juste que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. 5 ans de Brexit qui, finalement, n'aura pas convaincu tous les Britanniques. Selon un sondage, seuls 3 sur 10 estiment que la sortie de l'UE a été une bonne chose. Le bilan est plus mitigé dans le milieu agricole. Certains s'en sortent mieux que prévu, mais pour beaucoup, la situation s'est dégradée. Notre correspondante Marie Billon s'est rendue dans un marché aux bestiaux au reportage.
Cela fait 5 ans que la cloche de Big Ben du Parlement de Westminster a retenti. À 23h, elle annonçait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette cloche-là, c'est celle qui annonce par contre le début des enchères aux moutons du marché de Melton Mowbray. Richard Morris était là ce matin, même s'il n'avait pas de moutons à vendre cette fois-ci. Cet éleveur aime l'ambiance des marchés.
On nous avait dit qu'avec le Brexit, les prix allaient chuter et que l'agneau britannique n'aurait plus de demande à cause des droits de douane. Mais c'est tout le contraire. La demande est là et aucune taxe n'a été imposée sur l'agneau britannique. Pour l'instant en tout cas. La demande la plus forte vient du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, d'Israël et de Turquie, hors Union européenne. Mais également, plus près de nous, d'Espagne et d'Italie, et de France. Et puisque ces clients avaient une relation commerciale avec nous avant le Brexit, ils continueront cette relation après le Brexit.
L'avis de Richard n'est pas partagé par tous, même pas parmi ses amis. Andrew Wheeler cultive des céréales à quelques kilomètres de là. La saison est basse pour lui, toute sa récolte est dans son entrepôt. Il a le temps de ruminer. Lui aussi, il avait voté pour la sortie de l'Union européenne en 2016.
J'ai voté en faveur du Brexit, mais c'est probablement mon cœur qui l'a emporté sur ma tête. L'une des raisons pour lesquelles je voterai différemment aujourd'hui, c'est que je vois que notre gouvernement ne s'intéresse pas à l'agriculture. Lorsque nous étions membres de l'Union européenne, il ne fait aucun doute que la pression exercée par les agriculteurs, surtout les Français, avait de l'impact à Bruxelles. L'UE avait peur, elle a toujours peur, des agriculteurs. Et ce n'est pas le cas du gouvernement britannique.
Le principal syndicat de fermiers britanniques, le NFU, tient une permanence au marché de Melton Mowbray. Ici et ailleurs, le représentant local, James Haddon, reçoit beaucoup de plaintes, notamment de producteurs de fruits et légumes. Ces derniers ne peuvent plus compter sur la main d'œuvre qui venait d'Europe, surtout d'Europe de l'Est, au moment des récoltes.
Vous travaillez toute l'année pour avoir une récolte et vous n'êtes pas en mesure de la faire. C'est pourquoi la NFU souhaiterait un plan stratégique quinquennal pour les travailleurs saisonniers, pour qu'ils puissent venir en nombre raisonnable, donc sans plafond arbitraire, afin que tous les aliments cultivés puissent être récoltés avec succès.
Le gouvernement travailliste arrivé au pouvoir en juillet dernier veut revoir et améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais il reste catégorique, un retour à la liberté de mouvement est hors de question. Marie Billon, Londres, RFI.
À suivre sur RFI Afrique Midi.
L'épopée des musiques noires.
À 50 ans, la chanteuse américaine Madeleine Perroux, qui n'a jamais hésité à exprimer ses convictions, affiche la volonté farouche de célébrer la beauté que nous avons tous en nous. Elle nous présente son dernier album, Let's Walk, dans lequel elle évoque les enjeux sociaux de notre temps, mais souligne surtout notre capacité à résister et à avancer dans un quotidien semé d'embûches.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30 TU.
RFI.